On le voyait venir, le coup d'État au Burkina a coïncidé avec un affaiblissement des forces populaires et partant, une multiplication d'actes terroristes téléguidés par les services secrets occidentaux, non seulement sur les frontières avec le Mali et le Niger, mais encore et surtout dans des régions aurifères. Le but, dessaisir l'État de son droit de disposer de l'or burkinabé et ce, dans la foulée d'une fronde parfaitement préméditée et planifiée des multinationales. Voici ce qu'en dit RFI. Plusieurs attaques en 3 jours visant un convoi et des installations des sociétés minières au Burkina Faso inquiètent les sociétés minières industrielles et aussi les exploitations artisanales de l'or. L'Office national de sécurisation des sites miniers, censé assurer la protection des mines, a du mal à mener à bien sa mission. Sur une dizaine de mines industrielles, l'ONACIM n'assure que la sécurité sur 3 sites, les autres sociétés ayant déjà contracté avec d'autres services de sécurité, comme la police ou la gendarmerie. Avec la mobilisation des forces de défense et sécurité, sur le champ de bataille contre le terrorisme, difficile en ce moment de mettre à la disposition de chaque société minière un nombre important de forces militaires pour la sécurisation de leur personnel et installation, fait-on savoir, lit-on sur RFI à ce sujet. Mais avant cette affaire, c'était le cas de 8 mineurs piégés dans la mine de Perkoa qui a été à la une des médias mainstream. Ces affaires s'agissent clairement des mines qui s'enrichissent sur le dos des populations burkinabées sans assurer la sécurité des travailleurs et tout en faisant tout pour contrer ce que les Occidentaux appellent l'exploitation clandestine des mines. Selon les données de l'ITIE, les mines représentent plus de 8% des recettes de l'État burkinabé et contribuent à 12% au PIB. De ce point de vue, la poursuite des activités minières participe au bon fonctionnement de l'économie. Le secteur des mines est le secteur le plus dynamique qui crée de l'emploi dans notre pays. Il faut qu'on lui accorde son importance pour lui permettre de jouer pleinement son rôle au niveau des secteurs privés, avoue, déclaré l'ex-premier ministre burkinabé Christophe Joseph Marie Dabiré à l'ouverture de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest en 2019. La production de l'or a atteint 51,63 tonnes en 2018 contre 46,39 tonnes en 2017, soit une hausse de 11,3% tandis que les flux d'investissement direct dans le secteur de l'or ont atteint 1 462 milliards de francs CFA en 2018 contre 1 388 milliards de francs CFA en 2016. La part de ce sous-secteur dans le PIB est passée de 7,9% en 2015 à 11,4% en 2017, puis à 6,6% en 2018, dépassant l'objectif de 10,2% visé en 2020. Ce que les médias mainstream tentent de donner pour les abrutis qui détruisent les mines pour stopper le pillage, ce sont les locaux, les Burkinabés. Et les réels propriétaires de ces terres. Ils s'opposent au pillage de leurs ressources naturelles et ne sont évidemment pas prêts de se laisser faire. Les Burkinabés ne souhaitent pas et ne laissent pas une partie tierce piller leurs ressources et l'ont fait savoir à plusieurs reprises. Dans la nuit de vendredi 10 à samedi 11 juin, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé un décret portant création de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Les membres de cette commission, qu'il va nommer, vont travailler sous son autorité pour présenter un avant-projet de loi portant constitution du Mali dans le cadre de la refondation. L'équipe de rédaction de la nouvelle constitution, qui va être formée par le colonel Goïta, comprend notamment un président, deux rapporteurs et des experts. Dans le cadre de son travail, elle pourra consulter l'ensemble des forces vives de la nation, dont les partis politiques et la société civile. Les groupes armés signataires de l'accord pour la paix dans le nord du Mali, les syndicats, les organisations religieuses ainsi que les autorités traditionnelles pourront également apporter leur contribution, précise le décret présidentiel, déjà publié au journal officiel. Mais pourquoi un changement de constitution quand on est au Mali et quand on est dans un État qui agit de manière à mettre au pas la présence étrangère au Sahel et qu'on bénéficie en outre d'une alliance avec la Russie et l'Algérie. Eh bien, la réponse est simple, pour bloquer davantage la route aux ingérences occidentales. Qu'est-ce qu'il y a dans une constitution? L'autorisation à signer des alliances avec les pays étrangers, mais aussi les conditions pour les rompre. Goïta chercherait donc à institutionnaliser la fin de l'alliance contre nature avec l'Occident. Mais il y a un autre aspect dans chaque constitution, les multinationales et leurs modalités d'action qui ont depuis toujours été au désavantage du peuple malien. Mais aussi une constitution décide de la monnaie nationale et cette monnaie pourrait ne plus être le franc CFA. D'ailleurs, c'était il y a quelques mois lorsque le Mali avait annoncé le début des coopérations intenses avec la Mauritanie pour l'évacuation de l'or blanc malien afin de contourner sanctions de la CEDEAO qui empêchent le pays d'utiliser les canaux traditionnels qui sont les ports de Dakar, d'Abidjan et de Lomé. Cette décision pourrait être un début pour la mise en cause du franc CFA, le Mali étant capable d'entrer dans des systèmes d'échange basés sur le troc et éviter tout recours au franc CFA. Alors qu'à travers le coup d'État au Mali, l'Occident croyait pouvoir briser entièrement la constitution du pays, et donc briser entièrement par la même occasion la souveraineté du pays, la donne semble avoir totalement changé, et tout complot anti-malien se retourne contre ses commanditaires. Le président français répond à un activiste camerounais sur le soutien au nom de la France au profit du régime du président Paul Biya. Selon lui, la France soutient une transition démocratique au Cameroun. Mais qui est la France pour ainsi s'ingérer dans les affaires intérieures de ce pays africain? Plus de précisions avec Pierre Claver-Caudeau, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau, magazine international paraissant à Douala au Cameroun.
Qui revient à la France de décider de l'avenir du Cameroun. Oui, Madame Ojé, ce sujet, déjà, ça est très, très intéressant dans la mesure où il nous permet d'apprécier l'ingérence intermarriste de la France dans les affaires intérieures du Cameroun. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que le président Paul Biya est au pouvoir depuis une quarantaine d'années, et ce qui suscite des débats autour de sa longévité au pouvoir et surtout de la transition au sommet de l'État, une transition qui sera déterminante pour l'avenir du Cameroun dans la mesure où le Cameroun, qui est sous la coupe réglée de la France, fait partie de ces pays phares de l'Afrique francophone, de l'Afrique centrale, dont la posture suscite quelquefois des interrogations quant à savoir si il est effectivement ou non sous la coupe réglée de la France. Oui, madame. Alors, on aborde dans ce sujet avec une certaine passion, surtout pour mettre en lumière l'ingérence française dans les affaires intérieures des pays francophones en général. Et ceci dans la perspective du contrôle de pouvoir politique de ceux-ci, afin qu'ils continuent à se faire piller librement, autant en ce qui concerne les ressources humaines que les ressources naturelles par la France et sans véritable contrepartie pour les peuples, pour nos peuples. À la rigueur, avec la complicité des dirigeants corrompus et soumis aux dirigeants et très souvent terrorisés par la France néo-esclavagiste. Pour revenir, madame, sur la dernière sortie de Macron en date, il faut être un crétin pour ne pas comprendre que c'était un montage des services spéciaux lorsque l'on tient compte du casting de son interlocuteur qui, ma foi, réside en Allemagne et non en France. Sinon, comment expliquerait expliquerons-nous autrement sa présence en région parisienne, en ces lieux et à la date et au moment de la visite de Macron dans la banlieue parisienne. Vous comprenez donc que c'est toute une orchestration qui a habillé ou alors qui a été toute une ingénierie de manipulation des masses ou alors de manipulation des opinions qui a été mise en place au préalable par l'Élysée pour que l'on s'imagine que c'est une rencontre fortuite, ce qui n'est pas déjà le cas. C'est tout simplement un arrangement de services spéciaux français avec un activiste camerounais pour permettre à Macron de s'appuyer dessus pour donner son avis, ou alors pour donner son avis sur la transition au sommet de l'État, la transition irréversible au sommet de l'État du Cameroun. Il faut profiter de cette tribune, madame, pour appeler à nos téléspectateurs que l'interlocuteur de Macron fait partie de cette diaspora camerounaise corrompue, vivant au crochet de l'impérialisme occidental, qui a pratiquement vendu son âme au diable. C'est donc une diaspora au sein de laquelle la France et même les gens comme Georges Soros recrutent des membres des cellules dormantes de l'impérialisme occidental en Afrique. Voir ce genre d'individus à la solde de la France ne devrait surprendre aucun observateur de la géopolitique ou alors des relations entre l'Afrique et le reste, l'Afrique et l'impérialisme occidental. Dans la mesure où ce sont des réfugiés alimentaires qui généralement se retournent contre les intérêts du continent pour justifier leur prébende auprès du bourreau qui désormais se comporte comme étant leur sauveur. Oui, madame, toujours est-il que lorsqu'on parle de l'ingérence française dans l'affaire intérieure du Cameroun singulièrement, c'est la raison d'être de la puissance, il faut le rappeler, de la puissance néocolonialiste qui, depuis un peu plus d'un siècle, c'est-à-dire depuis 1918, qu'elle a pris pied au Cameroun, tire l'essentiel de ses ressources naturelles et humaines de l'Afrique et du Cameroun naturellement. Et surtout sans contrepartie pour les pays dits de son prix carré, c'est-à-dire les 15 pays de l'espace francophone, aujourd'hui revenu sensiblement à 14, bon en fait c'est 15 pays, mais 14 utilisent le franc CFA, excepté quelques-uns qui se sont détachés de ce prix carré. C'est donc une question de survie pour la France qui est en fait un loup dominant d'une meute de prédateurs internationaux, tous membres de l'Union européenne. La France n'agit pas par conséquent seule, mais pour le compte d'un cartel criminel qui use de tous les moyens pour tenir l'Afrique francophone en bride contre la volonté de nos peuples, contre des faveurs accordées à nos dirigeants qu'ils placent à la tête de nos États au gré justement de leurs intérêts. Macron est par conséquent dans son rôle de terroriste non violent, d'apparence quoi, qui, dans un élan de paternalisme, joue à la perfection son rôle de loup vêtu en agneau pour pérenniser un système hideux et anthropophage qui profite grassement à la France et à ses complices occidentaux en appauvrissant dramatiquement les populations africaines francophones assimilées par la classe politique française à un troupeau de bougres corvéables à volonté et dont la vie ne compte pas du tout. Comme quoi, grâce au travail de sensibilisation et d'information que nous menons depuis de longues années auprès des masses critiques francophones, un nouveau leadership finira par se mettre en place et pour briser ce fameux signe indien qui continue à enfermer les pays francophones dans la misère plus d'un demi-siècle après la pseudo-indépendance, malheureusement, avec des complicités au sein de l'élite résolument, au sein de l'élite africaine résolument à la solde de l'impérialisme français, car prise en otage par l'influence de certaines écoles philosophiques qui les obligent à céder leur intelligence, à la limite leur cerveau, à des gourous français qui pensent, réfléchissent à leur place. Pour conclure, la France risque de ne jamais avoir le temps d'assimiler le principe de respect mutuel qui anime désormais certains dirigeants africains, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Mali, la RCA et également la Guinée équatoriale, qui faut-il le rappeler, vient de menacer au cas où l'immeuble siège de l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris est saisi. La Guinée équatoriale, le vice-président, par la voix de son vice-président de la Guinée équatoriale, c'est clair que si jamais la France saisit cet immeuble, la Guinée équatoriale donnera 24 heures à l'ambassadeur français de quitter. De quitter définitivement, expulsera l'ambassadeur français en Guinée équatoriale en 24 heures. Et ça, c'est le principe de réciprocité. Alors, vous imaginez que de plus en plus, certains pays, alors certains dirigeants africains commencent à prendre la mesure de l'infidélité de la France, de la prédation française et du terrorisme français vis-à-vis non seulement de ses dirigeants, mais également des populations africaines. Bref, madame, l'Afrique est en quête de souveraineté et de développement et à ce titre n'a plus besoin, j'ai dit, n'a plus besoin au regard des réactions enregistrées sur le terrain par certains observateurs de la relation Afrique, de relations France-Afrique, on a quand même le sentiment, et ça c'est rassurant, que de plus en plus l'Afrique, ou alors les Africains, non, sont fatigués, ne veulent plus de l'ingérence et de l'arrogance française dans leurs affaires intérieures, parce que de plus en plus, ceux-ci se sont convaincus que la relation entre la France et leur pays n'a jamais été profitable à ceci, ni au pays, ni aux peuples africains, ni au pays. Et davantage, cette relation s'est construite grâce à la corruption des dirigeants à la tête des États africains et ceux qui ont osé, parmi ceux-ci, ceux qui ont osé remettre en question les canaux imposés par la France se sont vus assassinés, ou alors ils sont retrouvés victimes des coups d'État, ou alors tout simplement assassinés par les suppôts de la France.
Le gouvernement du Ghana a investi 131,6 millions de dollars pour renforcer l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ces fonds servis à la construction d'un siège ultramoderne du service EFTP et d'un institut de technologie appliquée comprenant des blocs de salles de classe, des centres de TIC, des blocs administratifs, des ateliers, des dortoirs pour hommes et femmes et l'installation d'équipements d'atelier. Ils ont également servi à l'acquisition de 64 engins roulants, dont 37 bus et 2 tracteurs. Les apprenants bénéficieront aussi de 26 modules de formation assistée par ordinateur, développés dans les différents domaines professionnels. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne d'industrialisation que mène le gouvernement visant à réduire le chômage croissant des jeunes au Ghana. Mercredi, le Parlement a donné son feu vert à un nouvel accord de pêche avec la Mauritanie qui devrait renforcer la coopération environnementale, socio-économique et scientifique. Par 557 voix pour, 34 contre et 31 abstentions, les députés ont soutenu le plus important accord de pêche conclu par l'UE avec un pays tiers. D'une durée de 6 ans, les partenaires aux navires français, allemands, irlandais, italiens, lettons, lituaniens, néerlandais, polonais, portugais, espagnols de pêcher du thon, des petits poissons pélagiques, des crustacés et des poissons démersaux dans les eaux mauritaniennes en échange de cette pêche, représentant au maximum 290 000 tonnes par an, la Mauritanie recevra 57,5 millions d'euros chaque année. Un montant supplémentaire de 3,3 millions d'euros sera utilisé pour soutenir la communauté locale de pêcheurs. Dans la résolution accompagnant cette approbation adoptée par 532 voix pour, 23 contre et 74 abstentions, les députés saluent l'engagement de la Mauritanie de rendre public tous les accords de pêche conclus avec d'autres pays afin de garantir que la flotte de l'UE bénéficie des mêmes conditions d'accès aux ressources mauritaniennes que les autres flottes. La BDEAC va financer 14 projets dans la CEMAC et au Burundi à hauteur de 161,86 milliards de francs CFA. Ces nouveaux engagements approuvés le 9 juin 2022 à Libreville au Gabon seront prioritairement destinés à 6 secteurs d'activité. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a approuvé 14 propositions de financement pour un montant total de 161,867 milliards de francs CFA. Ces fonds seront destinés aux opérateurs économiques des secteurs publics et privés des pays de la zone CEMAC et du Burundi dans les domaines clés que sont l'éducation, l'agriculture, le transport, le tourisme, les finances et les mines. C'est ce qui ressort de la deuxième session du conseil d'administration de la BDEAC, présidée par la ministre de l'Économie et de la Relance du Gabon et présidente en exercice de l'institution bancaire sous-régionale, Jeannine Lydie Roboti-Epps-Bou. Le grand producteur d'électricité du Kenya, KenGen, a proposé aux mineurs de Bitcoin BTC d'acheter son excédent produit à partir des énergies renouvelables. En effet, l'entreprise produit 86% de son énergie à partir des sources renouvelables, notamment la géothermie, à partir de poches de chaleur dans la vallée du Grand Rift. KenGen dispose d'un terrain à Olkaria, Naivasha, à 123 km de la capitale Nairobi, près de sa centrale géothermique phare, qu'elle souhaiterait louer aux mineurs de Bitcoin. Cependant, aucun mineur de Bitcoin n'a manifesté d'intérêt pour la possibilité de s'installer au Kenya jusqu'à présent. KenGen possède actuellement une capacité de production maximale de 863 MW suite à l'ouverture d'une nouvelle centrale géothermique en avril, selon le média financier kényan Capital FM. L'exploitation minière consomme 119,5 TWh par an, soit plus que l'ensemble des Pays-Bas selon la CBECI. Seuls 31 pays consomment plus d'énergie.